Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est un témoignage sans phare, sans dolorisme, sur le handicap, les difficultés, les choix, les réussites liées à celui-ci. C'est le récit d'un parcours de vie formidable, parcours toujours en plein essor, et c'est aussi les réflexions d'une personne au caractère bien trempé et plein d'humour. Cet ouvrage s'intitule « Comment j'ai trouvé ma propre lumière ». Il est édité par Amalté et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur Muriel Joubert. Muriel Joubert, bonjour.
Bonjour Monique.
Voilà, alors... Comment j'ai trouvé ma propre lumière ? Lumière, ombre, lumière. Il y a cette ombre que vous allez connaître peu à peu dans votre récit, c'est ce que vous racontez. Que s'est-il passé ?
J'ai perdu la vue, j'ai une rétinite pigmentaire, une maladie génétique qui est évolutive, donc on perd la vue par palier. Ça peut aller jusqu'à une cécité totale. Moi aujourd'hui, donc, j'étais dans l'obscurité sans le savoir depuis l'enfance, non diagnostiquée. Et là, aujourd'hui, vraiment à 31 ans, j'ai eu une grosse perte de vision et donc je suis passée d'une personne voyante à une personne malvoyante, même aveugle légalement, qui oui. marche avec une canne blanche.
Oui, voilà. Alors c'est une voilà information l'ombre. Importante que vous donnez pour les voyants sur la cécité, le fait d'être aveugle, même s'il y a un restant de vue.
Exactement.
Ouais.
Légalement, il y a deux notions pour la cécité. J'ai appris ça, hein, je ne connaissais pas tout ça. C'est soit l'acuité visuelle qui est inférieure à moins un vingtième, soit la deuxième façon de mesurer la vue qui est moins connue, c'est le champ visuel. On n'y pense pas quand on l'a et qu'il est normal. Et quand il est inférieur à 20 degrés, on est également en cécité légale. Voilà. Oui, ce qui est mon cas, hein, il est à 5 degrés aujourd'hui.
D'accord. Donc, vous voyez bien quand on est en face de vous.
Alors, bien, c'est relatif. Alors, de toute façon, quand on n'est pas en face de moi, je ne vois rien. Je n'ai aucune information visuelle autour. Dans mon petit rond de vision, j'ai une vue malgré tout très dégradée, floue, etc. Il y a d'autres phénomènes.
D'accord.
Mais voilà, il faut vraiment être pile en face. D'accord. Je vais voir un œil quand je vous regarde à cette distance. Je vais voir un œil.
Il y a eu une exposition au Château d'Eau à une époque. Les mains voient. Et on montrait justement, on demandait aux visiteurs de se bander les yeux pour découvrir les choses. Et également, on nous faisait voir à travers des petits tuyaux, par exemple. Enfin, et c'était quand même une expérience très riche.
Ouais. Oui, c'est intéressant, je trouve, effectivement, de vivre ce que peut percevoir une personne malvoyante ou aveugle à travers, comme ça, des mises en situation.
Absolument.
Parce qu'on ne se rend pas compte, sinon,
quand
on croise les personnes dans la rue.
Oui. Très bien. Et vous dites que, enfant déjà, vous aviez un problème, mais personne ne s'en est rendu compte.
Exactement. Enfin, je me cognais la nuit, puisque cette cécité commence d'abord par une gêne dans l'obscurité.
Oui.
Et en fait, dans ma famille, tout le monde y voit très bien. C'est vraiment, je suis le seul cas. Et donc, on pensait que j'étais maladroite parce que je me cognais dans les poteaux. Dès que la nuit tombait, je n'avais pas une marche apparemment comme tout le monde. Mmh. Mais on pensait que j'étais maladroite ou que je faisais l'intéressante.
Ah oui, d'accord. Oui, parfois, on va chercher des explications d'ordre psychologique. Mais qu'est-ce que c'est la rétinite pigmentaire ?
C'est une maladie donc, génétique. Aujourd'hui, elle fait partie des maladies du Téléthon. Donc, il n'y a pas de traitement connu à ce jour.
Il n'y a pas de progrès dans ce domaine ?
Alors, l'association Rétina France s'occupe de cette maladie. Et donc, tous les fonds récoltés vont à la recherche. Donc, il y a deux types de recherche, soit la recherche en thérapie génique, mais plus de 30 gènes sont impliqués, c'est assez complexe, soit la recherche sur la rétine artificielle. Aujourd'hui, non, on n'en est pas encore au stade de l'expérimentation, c'est balbutiant. Mais il y a des choses qui avancent.
Il y a des choses qui avancent, oui. En fait, vous dites dans votre ouvrage que vous avez utilisé différentes stratégies ou compensations, c'est-à-dire
ça va vous faire rire. J'avais donc des gènes nocturnes fortes. Par exemple, quand j'avais 14 ans, là, j'étais toujours pas diagnostiquée, j'allais au lycée, il y avait une annexe à Albi, dans mon lycée La Pérouse, et il fallait monter une côte vers la cathédrale d'Albi, derrière, ça s'appelle la temporalité, et c'était dans la pénombre, pour moi c'était dans le noir complet, je n'y voyais absolument rien. Donc mes stratégies, par exemple, c'était de marcher sur la route la nuit plutôt que sur un trottoir, parce que sur une route, il y a moins d'obstacles.
Eh oui.
Alors quand je raconte ça aux gens, ils frémissent, ils me disent « mais il y a les voitures ». Mais on entend les voitures. Mmh. Donc je développais déjà des stratégies auditives.
Sauf le danger des voitures électriques maintenant.
À l'époque, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus dur. Et puis les vélos, la nuit, il y en a moins.
Oui.
J'avais des stratégies quand j'ai eu l'âge de sortir en discothèque, etc. Et ben, parfois, je prenais la main ou le t-shirt d'une amie discrètement quand elle bougeait d'endroit parce que je ne les voyais pas se déplacer. Voilà.
D'accord. Mais dites-moi, vous aviez des visites médicales, vous alliez chez le médecin et personne n'avait décelé ?
Non. À l'époque, j'allais même chez mon ophtalmologue à Albi, puisque j'étais astigmate, hypermétrope, des choses classiques, voilà, très banales. Et ma mère, quand même, lui parlait de mes difficultés de vision nocturne, mais elle n'avait pas du tout... elle ne voyait pas.
Oui.
Voilà. C'est quand même une maladie rare. Moi, à l'époque, c'était
moi,
dans les
maintenant,
années 80.
Non
moi, maintenant. Maintenant, c'est
oui,
beaucoup
c'est
plus connu.
Décelé,
hein.
Oui.
Oui. Et donc, c'est quand mon ophtalmologue est parti en vacances que son remplaçant a soupçonné quelque chose d'anormal, quand j'avais 16 ans. Et
bon. Les étudiants étaient plus informés
Oui, je pense, oui. Hein? C'est fort possible.
Oui. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, et ça, pour cela, vous devez certainement lui en être très reconnaissante, c'est le soutien inconditionnel de votre maman.
Ah oui, ça c'est vrai que ma maman, parce que mes parents avaient divorcé quand j'avais 6 ans, et donc c'est ma maman de fait qui avait notre garde principale. Mon père était présent, mais plutôt sur les week-ends, sur les vacances et le mardi soir. Et donc, ma maman, c'est vrai que oui, un soutien sans faille. Et puis, c'est quelqu'un de très pragmatique, dans le contentement, une femme forte, je dirais, qui elle aussi a eu ses histoires de vie, toujours positive. Et vraiment, elle m'a énormément... c'est avec elle que j'ai fait le plus de consultations, finalement, chez mes médecins et mes ophtalmos. Hein. Même quand j'ai été mariée, c'était avec ma maman que je continue à y aller.
Ah oui. Oui, parce qu'on se dit que là où vous en êtes, on va parler de votre parcours également professionnel, c'est quand même, il fallait qu'il y ait un soutien au départ. Elle vous a inculqué une confiance en vous, non ?
Elle m'a inculqué une confiance en moi. Elle nous a beaucoup inculqué, à mon frère et moi, une liberté. Une liberté d'être. Elle aimait les enfants comme ils étaient, c'est-à-dire des enfants vivants qui s'exprimaient. On avait le droit de nous exprimer, on avait le droit d'exprimer nos émotions, on était même encouragés à le faire. C'était quelqu'un qui cultivait son jardin, elle était raccordée à la terre, elle nous inculquait des choses simples et essentielles. Voilà.
Essentielles, oui. Et votre père ?
Mon père, lui, eh bien, donc, il était dans la même ville, on le voyait toutes les semaines. Et lui, il m'a inculqué l'effort, le sens de l'effort à travers le sport. Mon père était un grand sportif.
Ah oui,
et du coup, il m'a fait faire beaucoup de mises en situation sportive. Alors même qu'on ne savait pas que j'avais la maladie aux yeux, donc je me suis vue sur des pistes de ski rouge, noir, à 12 ans.
Oui,
je
alors vous pensiez,
en fait.
Ah bon ?
Ah non, mais je me sentais nulle. Il était très fort en ski. Il me disait « plie les genoux », il me donnait 10 000 conseils. Et moi, je pense que j'avais déjà des problèmes d'adaptation
bien
au contraste
sûr.
Du
oui,
fait de
oui,
ma pathologie.
Oui, oui, oui.
Moi, je galérais dans ces pistes-là, je râlais là. Dès que j'ai eu
l'âge
de me rebeller, je suis allée avec le groupe des femmes qui faisaient du ski de fond, j'ai raccroché le ski alpin. Mais je pense que le fait qu'il m'ait proposé tout ça, ça m'a donné... mon corps a développé des capacités.
L'envie de foncer quand même.
Ouais, quand même
Mais par rapport à la maladie, donc, ils n'ont pas, quand ils l'ont appris, ils n'étaient pas accablés.
Si, alors, il y a eu un tabou, si vous voulez, très fort. Un déni, moi, de ma part. Et eux, un tabou familial. Donc, on n'en parlait jamais.
Ah.
Donc, je ne sais absolument pas comment ils ont vécu, eux, chacun, à cette époque-là, le diagnostic.
D'accord.
Puisque j'avais 16 ans. Alors, je sais que ma mère s'est abonnée à la revue Rétina France du jour du diagnostic de la rétinite pigmentaire.
Oui.
Et mon papa, il n'en parlait pas et je n'en parlais pas. Je sentais que c'était trop dur pour lui d'en parler.
Ah non. Oui, d'accord.
Il y avait vraiment un tabou familial. Avec mes grands-parents non plus, on n'en parlait jamais.
Est-ce que ça vous pesait de ne pas pouvoir en parler ?
Ben, moi, en fait, j'ai vraiment refoulé le diagnostic parce que j'ai eu à 16 ans donc, un monsieur qui m'a dit en fin de la journée de test... Voilà, vous avez une rétine pigmentaire, vous pouvez perdre totalement la vue.
Oui,
et je n'ai pas de souvenir, moi, de cette période-là, les quelques jours qui suivent le diagnostic.
Vous aviez 16 ans.
Oui. Ma mère m'a rappelé une anecdote que moi dont je n'avais pas souvenir. C'est que le jour du diagnostic, bah, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand on est rentrée de Toulouse, elle ne savait vraiment pas quoi faire, elle était un peu catastrophée. Elle s'est arrêtée avec moi dans un magasin de vêtements. Et on a acheté une belle veste ensemble, une très belle veste. Je ne l'ai jamais portée. Je n'ai jamais pu la porter.
Ah oui, parce que c'était symbole.
Elle voulait me faire plaisir. Et moi, je crois que ce jour-là, voilà, j'ai jamais...
Vous n'étiez pas d'humeur à...
Et voilà. Et après, il y a eu vraiment ce déni de ma part et puis ce tabou familial. Et donc, on n'en parlait jamais. Et moi, je l'enfouissais vraiment, ce diagnostic, en me disant « Je vis comme tout le monde, on verra bien ». Donc, je n'ai jamais réfléchi à un métier adapté ou des choses comme ça. Et je ne voulais pas qu'on m'en parle, en fait.
Vous avez vécu comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Et votre frère ?
Rien, il n'a aucune pathologie, lui, il est tout à fait voyant. Et mon frère, on n'en parlait pas non plus.
Oui.
On a dit l'information, mais c'est resté une information, comme on dirait, je vais acheter du pain.
Et après, personne n'en parlait plus. Voilà.
Et puis moi, si on m'en parlait, je ne souhaitais pas non plus en parler. Donc je pense que les gens le sentaient et ne voulaient pas m'en parler.
Oui. Voilà. Alors, ceci dit, vous avez fait de très bonnes études.
Ben, j'avais la chance d'être bonne élève à l'école, j'aimais apprendre, tout simplement.
La chance, c'est-à-dire que oui, voilà. Vous...
Bon oui, je me donnais les moyens,
oui,
je travaillais.
Exactement,
hein. J'avais des facilités,
ça tombe pas comme ça, tout
aussi.
Cuit dans le bec.
Non, non, non. Non, et puis je lisais beaucoup, c'était un de mes grands loisirs, la lecture. Je dévorais des livres, j'aimais étudier, j'étais studieuse, voilà, d'une nature travailleuse. Et donc, effectivement, après mon lycée, j'ai fait une prépa HEC et puis j'ai intégré l'ESSEC après un an de prépa. Ma prépa était à Fermat, d'ailleurs, à Toulouse.
Ah oui, et ce qui n'est pas évident d'entrer dans une prépa à Fermat.
C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, je vais vous donner une anecdote. Je n'ai même pas présenté la première année. Normalement, on présente des écoles pour s'entraîner, puisqu'on est censé faire 2 ans.
Plusieurs, oui.
Et je n'ai même pas présenté HEC, parce qu'il y avait un coût à chaque concours. Et donc, j'ai obtenu l'ESSEC dès la première année. Alors, évidemment, c'était parfait.
Vous avez pris l'école
qui me correspondait. Donc,
Oui, parce que on peut dire à nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas, mais l'ESSEC, c'est la deuxième. Enfin, elle fait partie. Il y a deux grandes écoles de commerce, c'est les HEC et l'ESSEC. Hein.
C'est vrai. Oui. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui, voilà.
Et alors, à l'école, pas de problème majeur?
Non. Aucun problème majeur. À part pour aller à mon lycée, dans cette annexe la nuit. Mais sinon, aucun problème majeur.
Oui. Alors, ce que j'ai appris, je vais me permettre de dire, vous étiez quand même gonflée.
Pourquoi?
Vous êtes partie faire des stages? Non, mais pas à côté, même pas en Angleterre, non, au Mexique.
Mais oui.
Qu'est-ce que vous alliez faire dans cette galère?
C'est vrai, ça. Mais en école de commerce, c'est obligatoire d'avoir une expérience à l'ESSEC à l'étranger.
Ouais.
Donc, on a des choix d'école pour les échanges universitaires.
Ouais.
Ma mère était prof d'espagnol. Donc déjà, j'avais un goût.
Oui, mais l'Espagne, c'est d'une banalité.
Oui, mais j'avais beaucoup d'amis espagnols, d'ailleurs. Mais j'étais fascinée par l'Amérique latine. Ça m'attirait énormément. Pourquoi, j'en sais rien. J'étais passionnée d'archéologie maya. Enfin, j'étais absolument fan. Je voulais être archéologue à l'époque.
C'est passionnant. Ah oui, archéologue.
Ah oui, oui, je me voyais bien, là, au milieu des... Ou sociologue, là-bas. Bon, en tout cas, j'ai choisi le Mexique pour mon premier échange universitaire là-bas.
Ouais.
À Monterrey, donc au nord du Mexique.
Et là?
Ben là, j'ai découvert le Mexique, j'ai découvert le pays qui est magnifique, j'ai découvert les Latino-Américains. Moi, j'ai une passion absolue pour ces gens-là. J'ai découvert une façon de vivre qui n'a rien à voir avec la nôtre, c'est « mañana es otro día », c'est-à-dire « demain est un autre jour ». Donc, on vit au jour le jour.
Oui.
Il n'y a pas la même notion horaire. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour un devoir de l'école, vous donnez rendez-vous à 14h, la personne peut arriver à 16h, tout est normal.
Oui, d'accord.
Voire même le lendemain. Vous voyez, rapport au temps n'a plus rien à voir.
D'accord.
Donc c'est très différent.
Et en même temps, un grand accueil.
Ah oui, moi j'ai trouvé des gens chaleureux, des deuxièmes familles là-bas, vraiment.
D'accord. Ouais. Et vous restez en contact?
Oui, oui, oui. J'ai gardé contact. Quand j'ai fait ensuite un stage à Mexico, nous avons là-bas une amie, Maria, et on est toujours en contact. Ouais.
Alors, mais vous ne me l'avez pas dit, il me semble avoir lu qu'il s'agissait d'une ONG.
Alors, en fait, j'ai fait d'abord mon échange universitaire au Mexique, puis j'y suis retournée pour faire un stage, parce que j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'était à Mexico. Et comme j'étais vraiment passionnée d'Amérique latine, ensuite, j'y suis allée une troisième fois. Pour faire une mission de développement économique pour une ONG en Équateur cette fois-ci.
D'accord.
Donc là, pays des Andes.
D'accord.
Voilà, petit pays dans les Andes.
Oui, là aussi, c'est pas...
Là, c'était très atypique. En plus, l'Équateur, une mission de développement économique. Vous êtes avec les gens les plus pauvres de la société. Moi, j'étais dans une association de femmes en plus, donc à 4000 mètres là.
Ah, oui.
Et la trésorière ne savait pas lire et écrire, voyez, pour vous donner une idée de l'adaptation que ça suppose.
Elle savait compter.
Non plus.
Ah bon?
Mais elle était trésorière. Donc, nous avons organisé des élections. Ça a été une des premières choses que j'ai mises en place pour trouver une trésorière qui savait quand même lire et écrire.
Oui.
Oui,
oui, aléatoire, mais passionnant.
Ah oui, moi j'adore ça. J'adore les situations, j'allais dire, un peu ubuesques. C'est-à-dire, ça nous force à nous adapter, en fait. Voilà.
Absolument.
Moi j'adore le contact
humain.
Ça ouvre
l'esprit. Hein.
Oui. Ah oui, les voyages forment la jeunesse. Hein.
Ah,
c'est
oui,
pas moi qui l'ai dit.
Mais surtout des voyages de ce genre, finalement.
Oui, oui, oui.
Alors, quant au choix de votre emploi, de votre job, de votre métier, j'ai compris que quand même, il fallait que ça corresponde à votre éthique personnelle.
Oui, vous avez très bien compris. Bravo, vous avez bien lu le livre parce que c'est en filigrane quand même.
Oui,
mais
oui, oui,
exactement.
Oui,
oui,
oui. Il y a des choses qui ne pouvaient pas passer.
Non. Ben, j'ai commencé à travailler à Londres pour un pétrolier parce qu'il fallait payer mon loyer. C'est très cher, les loyers
oui,
à Londres.
Oui, il paraît que les logements à Londres sont très chers.
Oui, oui. Et mon ex-mari était à ce moment-là en VSNE, c'est le service militaire qu'on peut faire à l'étranger. Oui. Et il avait choisi Londres et il fallait vite que je trouve un emploi totalement embauché. Je n'allais pas ne pas y aller. Mais ça me gênait vraiment de travailler, j'avoue. Je n'ai rien contre Total, mais pour une société pétrolière, surtout que je venais d'Amérique latine et le côté humanitaire est quand même là-bas. Bon,
il y a des expropriations,
etc. Oui. Donc je ne le vivais pas forcément très bien. Je me souviens de conversations où j'appelais ma maman, justement. Je disais, mais maman, là, je suis en train de vendre mon âme au diable. Et elle me disait, mais Muriel, le monde n'est pas noir ou blanc, il est gris. Et donc j'ai compris que pour payer mon loyer, j'allais continuer chez eux.
Oui. Encore que, finalement, est-ce que le monde est gris? Peut-être qu'il est noir, et puis parfois blanc, et puis parfois noir.
Moi, je ne sais pas là-dessus. En tout cas, j'ai réussi à rester 18 mois dans cette société.
Bon, à payer mon loyer,
mais en plus, j'ai adoré mes collègues, et j'ai adoré tout ce que j'ai découvert là-bas. Voilà.
Oui, il y a toujours quelque chose de positif.
Oui.
Et alors, vous avez choisi quoi, en finale?
Vous voulez dire...
Comme profession.
En fait... Les écoles de commerce vous mènent quand même à des professions type, des métiers d'entreprise. Après, on peut faire aujourd'hui vraiment tout ce qu'on veut, mais à l'époque, on était un peu plus, j'allais dire, dans le moule d'aller vraiment vers l'entreprise après une école de commerce. Quand je suis rentrée en France après mon expérience à Londres, j'ai plutôt réfléchi à l'entreprise dans laquelle j'avais plus envie de travailler. Mmh. Et de Caribrancilla, ça m'a menée à La Poste, puisque j'ai trouvé que c'était une entreprise avec des valeurs publiques, d'accueil de toutes les populations, d'accessibilité,
public,
de services universels, voilà. Et donc, ça correspondait mieux à mes valeurs que le monde de l'entreprise privée, dans lequel, pourtant, j'ai travaillé, et ça s'est très bien passé.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pour ça que je suis à La Poste depuis ce temps, où là, j'ai exercé différents métiers. Après, vous avez plusieurs possibilités.
Voilà, on va en parler. Entre-temps, on n'a pas parlé, vous êtes mariée, et vous avez vécu pendant 9 ans en mariage. Et bizarrement, votre mari aussi était dans le déni.
Oui, mon mari, je l'avais rencontré à l'ESSEC pendant mes études, en fait. Je lui avais dit que j'avais une rétine pigmentaire, mais comme moi, je faisais comme si je n'avais rien.
Il avait oublié.
Oui, il y avait un déni commun. Et puis, c'était quand même tabou à cause des enfants. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je pensais que si j'avais des enfants, ils pouvaient avoir la même maladie. Je n'avais pas fait de tests. Aujourd'hui, on peut faire des tests d'ADN. J'en ai fait depuis. Et donc, on ne parlait pas trop de est-ce qu'on veut des enfants ou pas. Parce que moi, j'avais toujours cette peur, quoi. La maladie était vraiment... C'était un tabou qui flottait entre nous.
Oui.
On n'a jamais abordé vraiment le sujet au sens... de façon posée, en réfléchissant. Ses parents savaient ce que j'avais, lui aussi, mais voilà, ça a été là.
Alors, est-ce que c'est au moment, je ne veux pas être, faire de l'inquisition, mais est-ce que c'est au moment de votre séparation que vous êtes adressée à la psychanalyse et au yoga?
Oui, exactement. Parce qu'en fait, mon divorce, c'est lui donc, qui m'a dit qu'il souhaitait qu'on se sépare, donc d'abord une séparation, puis un divorce. J'ai vraiment vécu une grande souffrance de ça, parce qu'en plus, on venait d'acheter une maison sur Toulouse.
Vous aviez des projets.
On avait des projets, voilà. Mmh. Et je ne m'y attendais pas, en fait. Et donc, ça m'a plongée dans vraiment de la souffrance. Et on est allé voir un psychanalyste tous les deux. C'est moi qui lui ai demandé. Enfin, c'était un psychologue. Parce que moi, je voulais encore comprendre pourquoi on se séparait. Et puis, bon, en 3 séances en couple, j'ai compris que l'issue serait la même, qu'on se séparerait. Mais le psychologue m'a dit, je sens chez vous une souffrance antérieure à ce que vous vivez là. Il faudrait travailler là-dessus. Et moi, tout de suite, je me suis vue lui dire, ben oui, je voudrais venir vous voir pour travailler dessus. Et le monsieur était psychanalyste, c'était quelqu'un de Toulouse. Et donc, j'ai commencé en fait une psychanalyse directement. J'ai franchi le saut.
D'accord.
Je ne me suis pas posé 36 questions.
Oui. Et vous alliez enfin en parler.
Et voilà. Mais là, je sentais que ça me débordait trop, en fait. Voilà.
Oui. Et le yoga?
Le yoga, j'avais démarré le yoga à Paris, puisqu'après Londres, nous vivions à Paris, à 27 ans. Vraiment, j'avais commencé le yoga parce que j'étais dans mon entreprise à La Poste. Et avec une collègue, l'été, on était un peu énervés. Mon chef nous donnait beaucoup de travail et on se mettait en colère. Voilà. Et on s'est dit, mais il faudrait qu'on fasse du yoga pour être un peu plus zen, comme une boutade. Et l'entreprise nous a proposé des cours de yoga le mardi midi. Donc, on a commencé avec cette collègue le yoga comme ça.
Alors, est-ce que vous voyez un rapport entre les deux, psychanalyse et yoga?
Oui, parce qu'ensuite, donc, quand je suis arrivée à Toulouse en 2004, la psychanalyse a démarré en 2005 avec mon divorce. Et j'ai démarré là une formation d'enseignant de yoga. Donc, on approfondit beaucoup le yoga. Et le yoga, en fait, je l'ignorais, comporte toute une dimension psychologique de l'individu. Et donc, la psychanalyse et le yoga se sont entremêlés, se sont renforcés l'un l'autre. Puisque, en fait, le yoga m'a permis d'intégrer la dimension du corps dans ma psychanalyse. Je considère aujourd'hui que si la psychanalyse reste purement mentale, où on cherche à régler un problème créé par le mental avec le même outil, elle ne peut pas fonctionner. Alors que là, avec le corps, j'ai accepté d'aller dans l'émotion et de libérer l'émotion.
Tristesse, le mental et le corps se rejoignent là, tout à fait. Et oui, et c'est, ça paraît logique, c'est vrai. C'est-à-dire que donc, vous avez accepté le handicap que vous aviez. Et puis, il me semble que vous... Avec le yoga, on apprend à lâcher prise aussi.
Exactement. Hein. Ben oui, moi j'étais beaucoup dans la force. J'essayais de résister à ce qui m'arrivait.
Vous étiez forte.
En apparence.
Oui, voilà.
Mais c'était une force qui était basée sur les sables mouvants. J'avais une grosse fragilité intérieure du fait de ce diagnostic, de cette peur de perdre la vue, en fait. Hein.
Bien sûr.
Et ma mère me dit toujours, tu es paradoxale. Tu as à la fois une grande force et une grande fragilité. Oui. C'est vraiment ça.
Oui. Oui, oui.
Aujourd'hui, j'ai accepté d'aller dans ma fragilité.
Et vous êtes d'autant
plus
forte.
De sortir de mon déni, voilà, pour trouver ma vraie force, en fait, qui est une stabilité intérieure.
Alors, je vais vous proposer, Muriel Joubert, je vais vous proposer une première écoute. Alors, vous allez me parler de Le lac bleu d'Henri Carole.
Ah. C'était mon morceau de piano préféré. Je l'ai beaucoup joué. J'ai appris le piano de mes 8 ans à mes 18 ans.
Et parce qu'alors, bon, le yoga, le ski, le piano... Hein,
oui, j'étais active, l'équitation, vous pouvez rajouter la lecture.
Oui, c'est vrai, oui.
Oui, oui, j'aimais bien faire plein de choses. Et voilà, et donc j'avais des cours de piano toutes les semaines. Et je crois que c'est le morceau que j'ai préféré dans tout mon apprentissage de piano.
Voilà, alors je dois avouer que je ne le connaissais pas. Nous allons l'écouter ensemble.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie de Muriel Joubert. Muriel Joubert qui a écrit un ouvrage intitulé « Comment j'ai trouvé ma propre lumière », sous-titré « Un autre regard ». Et effectivement, c'est un autre regard qu'elle nous apporte. Et sur le handicap, la cécité, mais également sur une vie très riche, très pleine, très forte aussi. C'est aux éditions Amalté. Alors, Muriel Joubert, on parlait du fait que vous avez fait ce qui est forcément très courageux, parce qu'à psychanalyse, beaucoup en ont peur. Beaucoup.
Je peux comprendre. On est face à un mur, sur un divan, et avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, voire jamais.
Oui, très peu.
Et donc, effectivement, ça peut faire peur, oui.
Et ça remue beaucoup de choses.
Oui, ça remue énormément. Et moi, je pense que j'ai, durant mes 4 années de psychanalyse, j'ai peut-être plus pleuré que parlé. Pourtant, je parle beaucoup. Mais ça a beaucoup remué en moi des émotions et ça m'a permis de les libérer. Voilà.
Oui, et arriver à voir de mieux en mieux, justement, en soi.
C'est vraiment à travers la psychanalyse que j'ai découvert, en fait, que j'avais un problème aux yeux. Ça semble paradoxal.
Mais c'est vraiment étonnant.
Parce qu'à 16 ans, j'avais tellement refoulé, tellement fait un déni de ce diagnostic, et je m'efforçais de vivre tellement comme tout le monde, même si de plus en plus plein de micro-phénomènes, on va dire, me faisaient voir que j'étais pas comme tout le monde. Mais je m'accrochais tellement à ça que c'est vraiment dans la psychanalyse que j'ai laissé aller et que j'ai.
C'est troublant, le pouvoir de l'esprit qui arrive
à berner, obstruer.
Parce qu'on le dit pour des enfants qui ont eu des agressions sexuelles, qui peuvent, par exemple, ne avoir tout enfoui. Oui. Ça n'existe plus.
Oui, oui.
Et en fait, ça travaille à l'intérieur.
Oui, le problème, c'est ça. C'est que tant que c'est enfoui et que ce n'est pas conscient pour vous, ça travaille à votre insu et pas forcément dans le bon sens.
Exactement.
Hein, voilà.
Alors, donc, vous avez appris à exprimer vos émotions. C'est ça ?
Exactement. Avec le psychanalyste, en fait, je me suis autorisée à les libérer puisque là, il y a un cadre analytique qui le permet, en fait. Voilà.
Bien sûr.
Voilà, parce que je n'aime pas m'apitoyer sur mon sort, donc c'était pas
On a bien compris.
C'était pas avec n'importe qui que je libérais mes émotions. Mais là, le cadre était là pour ça, et voilà, ça m'a permis de le faire.
Et vous l'avez suivi pendant combien de temps ?
4 années.
4 années, d'accord. Alors, ce que j'ai noté aussi, c'est que vous avez un rapport très fort avec la nature.
C'est vrai, mais je crois que ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours... enfant, ma maman, elle avait un jardin, on jouait tout le temps à l'extérieur, dans le jardin, dehors. Elle nous amenait en forêt tous les dimanches, on adorait ça. Après, j'ai pratiqué à l'adolescence l'équitation, mais vraiment, ce que j'aimais, c'était le rapport avec l'animal et avec la nature. Je détestais tout ce qui était compétition, saut d'obstacles, dressage.
Il fallait en faire un peu,
mais vraiment, ça, c'était pas mon truc. Moi, j'aimais la nature, la liberté que ça offre, cette connexion avec ce qui nous entoure, voilà.
Bien sûr.
Toujours.
Alors, tout ça, vous êtes arrivé à le concilier avec une vie professionnelle ?
Bon an, mal an. C'est aussi pour cette raison, je pense, que j'ai quitté Paris, parce que là, je le conciliais plus difficilement.
Vous étiez à la Poste à Paris ?
Oui, j'ai commencé à la Poste. C'était au siège à Boulogne-Billancourt à l'époque.
Ah oui, d'accord.
C'est ça, dans le 92. Et c'est vrai que Paris, pour moi, c'était quand même une vie où je manquais d'air, enfin de nature.
Ah oui, pour vous qui aimez la nature.
Oui, puis je venais du Sud-Ouest aussi. Ma région me manquait peut-être aussi. Donc, dès que j'ai pu avoir une opportunité professionnelle de revenir en province, je l'ai saisie.
D'accord, et alors là, qu'est-ce que vous avez fait donc à la Poste ?
À la Poste, j'ai démarré en marketing. Hein, j'étais chef de produit pour des produits bancaires, dont le livret A. J'aimais bien, j'avais 21 millions de clients, tous les détenteurs de livret A. Et puis, c'est un produit populaire, ça me plaisait aussi. Ouais. C'était vraiment le grand public, tous les Français. Et ensuite, j'ai commencé donc 3 ans à Boulogne-Billancourt. Et il y a eu création de postes de responsable études marketing un peu partout en France. J'ai saisi ça.
Voilà. Et est-ce qu'on a adapté votre travail ?
À l'époque, pas du tout.
Pas du tout.
Mais c'était ma faute aussi, parce que quand j'ai fait la visite médicale à la Poste, moi, j'ai rien dit. J'ai pas dit que j'avais une pathologie
Toujours dans le déni, donc.
Là, pas dans le déni, parce qu'en Angleterre, je l'avais dit et ça m'avait privé d'un poste de directeur commercial.
Oui.
L'assurance ne voulait pas m'assurer.
Oui.
Donc, j'étais révoltée.
Oui.
Donc là, à la Poste, j'ai rien dit. On m'a dit que mes yeux n'étaient pas géniaux. J'avais 27 ans. J'ai dit que j'avais pas vu d'ophtalmo depuis très longtemps. J'ai menti, j'avoue. C'est pas bien. Mais en tout cas, j'avais mon papier où j'étais marquée apte, parce que je commençais à avoir peur un petit peu du monde du travail par rapport à ça.
Bien sûr, bien sûr.
Après, je ne me mettais jamais en danger. Quand je suis arrivée à Toulouse en 2004, donc mon métier, c'était d'aller dans tout Midi-Pyrénées, voir les bureaux de poste, faire des études marketing et voir s'ils étaient bien implantés. Donc je conduisais. Et j'ai appris à conduire,
oui.
Mais je conduisais jamais la nuit, j'en étais incapable. Mmh. Donc l'hiver, je m'organisais avec mes horaires, etc. Enfin voilà, j'avais un tas de stratégies adaptatives
pour
contourner les difficultés.
D'accord.
Et je n'en parlais pas, évidemment.
Bien sûr. Bon, et les collègues se rendaient compte de rien non plus ?
Rien, rien. Il y a juste une fois quand même un épisode où je rentrais... J'étais devenue manager d'une équipe, dont celui qui faisait les études marketing, mon poste précédent, et on rentrait d'Ariège. Et d'un coup, l'horaire était bon, j'étais au volant, un orage terrible et le ciel tout noir. Et là, j'ai eu un petit moment quand même de panique. Je n'y voyais plus rien sur le périph' toulousain quand même.
Ah oui, quand même.
Et là, je lui ai dit, là, il faut absolument que tu me guides. Je n'y vois rien. Il me dit, non, mais ça va aller. Je dis, non, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Je t'expliquerai plus tard. Mais là, dis-moi, droite, gauche, qu'est-ce que je dois faire ? Et dès qu'on peut, on s'arrête.
Oui, heureusement, vous n'étiez pas toute seule. Oui.
Mais enfin, heureusement aussi, voilà.
Vous parlez de l'ARAMAV, A-R-A-M-A-V. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un centre de rééducation, en fait, pour les adultes qui perdent la vue.
Alors, vous avez franchi un cap.
Ben oui. C'est-à-dire que là, j'en arrivais à un stade où mes compensations ne fonctionnaient plus. Ça a Ça a coïncidé avec mon divorce. Je pense qu'il y avait des compensations à deux qui ne se faisaient plus. J'étais seule. J'arrivais plus à aller travailler parce que je me cognais aux gens dans la rue. Et donc là, j'ai pris conscience d'un coup, brutalement. Je suis sortie de mon déni que j'avais un vrai problème aux yeux. Donc là, j'ai fait des démarches d'abord à Toulouse, à la SEI, à ZEI, pour faire des rééducations. Et j'ai choisi d'aller à la RAMAV à Nîmes pour des rééducations plus lourdes pour les adultes qui perdent la vue.
Oui, alors je ne savais pas qu'il y avait un centre, il y a un centre important à Nîmes
Des
adultes.
Oui, d'accord. On était une vingtaine de patients en hospitalisation complète.
C'est, oui. Voilà. Et ça vous a appris beaucoup de choses.
Énormément. Donc j'ai été 4 mois là-bas. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des rééducations. Dans le cerveau, on a une aire pour la vision, l'aire visuelle. Et quand on perd la vue, il y a des choses qui peuvent se développer vers les autres aires sensorielles, le toucher, l'ouïe, mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut une grosse motivation pour que ça se développe, parce que c'est neurologique. Hein, c'est vraiment des synapses et des neurones qui se reconnectent autrement.
Il y a un apprentissage.
Une plasticité du cerveau. Oui. Voilà. Et là-bas, tout l'enjeu de l'apprentissage, c'est ça. C'est de câbler un peu plus les neurones vers les autres aires sensorielles qui remplacent petit à petit l'aire visuelle.
D'accord. Voilà. Donc, en fait, il faut que vous changiez beaucoup de choses.
Tout. En fait, tout.
Ouais.
Et ce qu'on ne remet jamais en question, c'est bien nos habitudes. Donc bien là, ce qu'il s'agit de faire, c'est, à travers les rééducations, de changer nos habitudes. La difficulté en plus, quand on a un petit restant de vision, ce qui est mon cas, c'est qu'on a tendance à toujours... Enfin, c'est comme ça, on n'y peut rien. La vue prend toujours le dessus sur le reste.
Oui.
La vue, c'est quand même le sens qu'on utilise à 85%
du temps. Oui, voilà, spontanément.
Donc, c'est le sens absolu qui prend toute la place.
Bien sûr.
Et même quand on en a très peu... On veut toujours encore l'utiliser et moi, ça m'épuisait.
Ouais.
C'est ça que j'ai, que j'ai dû apprendre
c'est
là-bas.
C'est ça que vous parliez de douleur au trapèze.
Oui. Eh bien oui.
Parce vous étiez crispé, tendu.
C'est ça. Et puis la vue, ça se porte, le nerf optique, ça vient derrière, au niveau du cou, des trapèzes. Et donc, j'avais des contractions permanentes parce que j'utilisais trop les yeux par rapport à mes possibilités restantes.
D'accord. C'est ça. Donc, vous avez pris... Et c'est à la RAMAV que vous avez appris les différentes techniques qui pouvaient vous être proposées. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on parle de l'informatique, on dénigre, mais finalement, c'est un outil formidable.
Ah, pour nous, ça nous sauve la vie.
Ah, oui.
Il existe des logiciels de grossissement, selon comment vous voyez.
Oui.
Et ensuite, il existe des logiciels
vocaux.
Des lecteurs d'écran qui vous lisent tout ce qu'il y a sur votre téléphone, sur votre ordinateur.
Vous n'avez plus les abominables machines Perkins.
Ça existe encore.
Ça existe.
Hein. Oui.
Ils sont indécrottables.
Mais après, il y a des plages braille.
Oui, il y a des plages braille. Donc, les différentes techniques. Et alors, j'avais noté, piano, justement, danse, équitation.
Yoga.
La danse, vous continuez. Yoga, évidemment, on va en parler du yoga. Mais la danse, vous continuez.
Oui. J'ai commencé en Amérique latine, en fait. C'est là-bas que j'ai appris la salsa. J'ai pris beaucoup de cours quand je suis rentrée en Europe parce que j'adorais ça, à Londres, à Paris, à Toulouse. Et ponctuellement, avec mes amis danseurs de salsa, nous allons danser à l'occasion.
Vous dites, danser fait grandir l'estime de soi et permet d'habiter son corps avec aisance et fluidité. Cela nous fait aussi travailler la confiance dans l'autre en acceptant de se laisser guider. C'est une excellente pratique avec un grand plaisir à la clé. Ce que vous dites, dans le fond, c'est valable pour tout le monde.
Bien sûr. Bien sûr.
Oui. Alors, il a fallu aussi que vous... Alors ça, c'est peut-être été plus difficile. Accepter la canne blanche.
Oui. La canne blanche, surtout que moi, le paradoxe, c'est toujours pareil. Le déni était tellement fort. Je suis passée de quelqu'un qui conduisait une voiture, bon, assez peu dans les derniers temps, mais quand même. Et 2 mois plus tard, j'avais une canne blanche. Donc, les gens ont eu l'impression que j'ai perdu brutalement la vue.
Et oui.
En fait, non. Je suis plutôt brutalement sortie de mon déni.
C'est ça.
Mais moi, je dirais, cette maladie, on perd la vue, mais c'est un peu comme un enfant. Vous le côtoyez tous les jours, vous ne le voyez pas grandir.
Oui,
ben moi, c'est pareil. Je côtoyais tous les jours ma perte de vision, mais je ne savais pas comment voyaient les autres. Je ne sais pas comment vous y voyez.
Oui, il n'y a pas d'élément de comparaison.
Non. Donc, on pense qu'on y voit, puisqu'on y voit.
Oui.
Alors, très dégradé, mais on n'en a pas conscience.
Évidemment.
Donc, le mécanisme est quand même assez étonnant. Et la canne blanche, au début, en fait, je l'ai acceptée facilement, au sens où, à la ZEI, ma professeure Armelle de canne blanche, l'ophtalmo, avait fait un diagnostic. Elle m'avait dit, vu votre stade de vision, c'est la canne blanche. Moi, j'avais vraiment une motivation qui était de continuer à aller travailler. J'étais en plein divorce.
Bien sûr.
Ma vie sociale était brinque-ballante. Enfin, voilà, je venais d'arriver à Toulouse. C'est le travail qui était vraiment mon point d'ancrage.
Oui, et puis comme insertion, c'est ce qu'il faut.
Et donc, je n'ai pas questionné la canne blanche. Par contre, c'est vrai que la première fois où, seul dans la rue, j'ai marché avec la canne blanche, je voyais, si je les ai bien en face, je voyais les gens qui s'écartaient. Et là, j'ai pleuré tout en marchant parce que je me sentais différente déclarée. Voilà, je m'étais toujours sentie différente, mais non déclarée, puisque je le cachais.
Bien sûr.
Là, ça a été vraiment le coming out un petit peu. Hein. Et puis, pour aller au travail, la canne blanche aussi, ça aussi, quelle étape. Au début, je la repliais avant d'arriver. Je faisais les derniers mètres sans la canne. Je me suis dit, mais j'étais manager d'une équipe de 15 personnes, j'étais devenue directeur financier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser
Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont pensé?
En fait, du coup, il y a une personne qui est venue faire une sensibilisation parce que c'était un peu perturbant pour eux. Ils n'osaient pas me poser des questions. Il y avait un tabou là aussi. Et la sensibilisation a permis de tout mettre à plat, de parler de ce que j'avais. Ils ont pu poser leurs questions et il n'y a plus de tabou. Bah, ils n'ont rien pensé. Ils m'ont accompagnée dans cette aventure humaine. Et je restais légitime dans mon rôle de manager puisque ça n'altérait pas mes capacités, j'allais dire, intellectuelles. Donc voilà. Ça s'est passé.
Et puis, vous avez eu un chien guide. Il y en a un, d'ailleurs, à vos pieds, là, en ce moment. Alors, ce que j'ai appris, mais c'est désopilant, parce que vous le racontez avec beaucoup de drôlerie, vos histoires avec les taxis, ce n'est pas triste. Ils ne supportent toujours. Maintenant, ils n'ont plus le droit de refuser.
Ils n'avaient déjà pas le droit à l'époque, où je le raconte. Mais peut-être la pédagogie œuvre. La dernière fois que je suis allée à Paris avec mon nouveau chien, qui est à mes pieds, je n'ai eu aucun problème de taxi.
Donc, il y a un mieux.
J'y retourne mercredi, on va voir.
Oui. Alors, Muriel Joubert, je vous propose d'écouter un chanteur qui m'est très cher, je trouve toujours très émouvant. Et il se trouve que vous le connaissez, il est décédé maintenant et il ne voyait pas, c'était, vous le savez, Ray Charles. Voilà. Alors, il y en a eu d'autres, il y a eu Stevie Wonder, qu'on a évoqué aussi, des grands chanteurs. Et Ray Charles, le voilà interprétant Georgia, une très belle chanson.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Et Muriel Jobert, venue dans nos studios pour nous parler de son ouvrage « Comment j'ai trouvé ma propre lumière », sous-titré « À notre regard », paru aux éditions Amalté. Parcours de vie, parcours plein d'humour, de volonté, de force aussi. Et puis sans phare, justement, parce que je crois que de dire ses faiblesses, c'est une force.
C'est vraiment ce que j'ai découvert. Et oui. C'est peut-être le plus surprenant. Je cachais mes faiblesses et vraiment, je n'en parlais jamais. Et d'aller dedans, de les découvrir, d'apprendre à se connaître finalement à travers ces fragilités, ça donne une force incroyable. Ça permet de traverser aussi la souffrance qui était liée à tout ça et de renaître à soi-même. Je me fais l'effet d'un phénix qui, à partir de ses cendres, renaît.
Oui, oui, oui.
Et qui partage ça avec les autres. Et ça leur permet aussi, eux-mêmes, d'aller voir un peu mieux qui ils sont et d'être plus humains avec eux-mêmes.
Bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est un livre qui peut aider beaucoup de personnes, aider les voyants à comprendre aussi, à comprendre cela. Parce que je pense que de repousser ses limites, et de prendre conscience de ses propres faiblesses, c'est valable pour les voyants également. Hein. Enfin, quand je dis je pense, j'en suis sûre. Alors, vous vous êtes lancée dans de nombreuses expériences. Alors, racontez-nous ça, Muriel Jobert. L'Ayurveda, Vasisdas, je dirais.
C'est lié au yoga. En fait, j'étais dans le yoga, donc j'avais terminé ma formation d'enseignante. Je l'enseigne à la poste, un cours par semaine, dans mon lieu de travail. Et l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc, le yoga vient d'Inde. Donc, évidemment, à travers le yoga, j'ai découvert l'Ayurveda. Et je me suis dit, parce que quand même, toute cette période de sortie de mon déni, psychanalyse, école de yoga, mon travail, mes rééducations, j'étais quand même physiquement un peu fatiguée. Oui. Même le terme est léger. Donc, je me suis dit, allez, l'Inde, l'Ayurveda, allons voir ce que ça peut m'apporter en termes de vitalité. Donc, j'ai réalisé 3 cures ayurvédiques avec ma maman. Je cherchais quelqu'un avec qui y aller. Elle a fait partie de l'aventure. Et puis, avec un couple d'amis pour la dernière. Et ça m'a apporté une vitalité extraordinaire.
Ah oui.
Je vous conseille une cure ayurvédique dans votre vie. Maintenant, on en trouve en France. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde.
Ah bon ?
Oui, oui.
Vous me rassurez. Bon, j'imagine qu'à Toulouse, il doit y avoir ça, parce qu'il y a beaucoup de centres de yoga.
Oui.
Et le tummo, ça relève du yoga également ?
Alors, le tummo, c'est une pratique, oui, ça relève du yoga. Là, c'est plutôt, ça vient du Tibet. Et c'est un maître, Maurice Dobar, qui est enseignant de yoga et de tummo d'inspiration tibétaine. Le tummo, c'est vraiment à travers le dépassement de soi et l'exposition volontaire au froid, on se découvre un feu intérieur. Et ça rejoint pleinement le yoga. Voilà.
Oui.
Je reviens d'ailleurs d'une semaine là, de tummo, puisque depuis 7 ans, je pratique chaque année.
Alors le froid, c'était où, si je ne suis pas indiscrète ?
Dans les Alpes italiennes. Le lieu, c'est le Vétan, c'est un endroit à 2000 mètres dans les Alpes, dans le Val d'Aoste.
Bon, vous n'étiez pas en maillot de bain quand même ?
Si. Si, j'ai des photos, Monique, si vous voulez être sûre. J'étais en maillot de bain dans la neige.
Parce qu'on parle de cryothérapie maintenant.
Mais exactement. Mais la science a récupéré le froid, c'est ça. Et on voit tous les bienfaits du froid sur l'organisme. Les grands sportifs l'utilisent pour la récupération musculaire. On peut l'utiliser pour calmer la douleur.
D'accord.
Ça a de nombreuses propriétés. Le tummo, c'est ça.
Alors, Jean-Louis Etienne, peut-être, maintenant, est au courant, parce qu'il était venu là, à votre place, et il partait au pôle Nord, tout seul. Et je lui dis, mais vous n'êtes pas frileux? Il me dit, si, je suis très frileux. Il faut dire qu'il est très maigre aussi. Mais je lui dis, mais alors, comment faites-vous? Il me dit, je m'entraîne, je dors sur mon balcon à Paris.
Ah, mais déjà, c'est très bien. S'exposer au froid permet effectivement de se forger aussi une immunité et au niveau santé à de nombreuses.
Et alors là, vous êtes resté combien de temps là ? Vous rentrez d'un stage de tummo ?
Oui, je suis rentrée hier soir. Oui.
Ah, je trouve que vous avez un teint superbe.
Ah hein. Merci. Mais là, le froid, c'est la meilleure esthéticienne, Monique.
Ah oui ?
Oui.
Ah oui.
Et je ne vous raconte même pas les effets sur la graisse et la cellulite. Ils ont peur du froid, donc ils disparaissent.
Ah bon ?
Oui.
Ah oui, peut-être qu'il va falloir que je y aille. Mais quand même, bon, d'accord, vous n'êtes pas frileuse peut-être de nature non plus.
Si. Moi, j'aime les paradoxes. Je suis extrêmement frileuse de nature.
Oui,
quand
mais
j'ai rencontré Maurice Dobar,
oui.
En fait, je l'ai rencontré parce que je préside l'association Yoga Midi-Pyrénées depuis 10 ans. Et on fait venir des maîtres de yoga à Toulouse. Et un jour, on m'a dit, tu devrais inviter Maurice Dobar.
Oui.
Oh là là, jamais un stage n'a été aussi difficile à organiser. Ils voulaient un lac en plein hiver. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Nous, ah bah, il y a Flourens, des... ici.
Oui, enfin, on est enfin, allé à la ramée, de façon un peu illicite, sans le dire. Après, il fallait une salle chauffée, après s'être baigné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Et ça a été extraordinaire. On a eu 30 personnes, dont la doyenne de 85 ans. Tout le monde est allé à l'eau. Il faisait 6 degrés dans le Lot, hein. C'était en
d'accord.
décembre. Il
faut avoir le cœur bien accroché, quand même.
Franchement, quand on est accompagné, ça se enfin, vraiment, il y a tout un accompagnement de Maurice Daubard. Et ça se fait, mais tout seul. Vous iriez facilement. On n'imagine pas, en fait, nos capacités
oui.
d'adaptation.
Oui, c'est vrai.
Elles sont endormies, mais elles sont là en nous tous. Et le froid, se confronter à cet élément qui est quelque chose auquel on peut s'adapter, ça nous renforce, en fait, sur tous les plans, y compris mentalement, parce qu'on se dit, c'est du dépassement de soi. On se dit, mais je l'ai fait. Et ça amène aussi l'exaltation.
Oui, c'est vrai.
Donc là, je reviens d'une semaine dans les Alpes où nous étions le matin en maillot de bain sur une terrasse en s'exposant au froid une heure. Ensuite, en sortie raquette en maillot de bain. C'est un peu, effectivement, inhabituel. Oui. Et le dernier exercice le matin, c'est un bain dans de l'eau à 1 degré, 2 degrés.
Ah, mon Dieu.
Tu descends directement des montagnes qui est chargée d'énergie. Parce que le Toumon, c'est aussi la communion avec la nature avant tout.
Ah oui,
et
d'accord.
Moi, c'est ça que j'aime.
Oui, 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 certes.
Amour de la nature.
Ah oui, d'accord.
Et donc, on est après dans une forme extraordinaire.
Oui. Ah, ça, je veux bien vous croire. Je ne vais pas dire que je vais vous emboîter le pas, mais parlez-nous aussi. Je me dis, mais cette Muriel, elle est extraordinaire. L'alimentation, le régime paléo.
Ça, oui. Ben,
alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient, nos ancêtres?
Oui, ben voilà, paléo. Pourtant, Dieu sait que dans le yoga, on est plutôt végétarien. Et moi, j'étais vraiment végétarienne de goût, de nature.
Oh, ben, oui,
parce qu'enfant, je ne mangeais jamais de viande. Pourtant, mon grand-père était boucher, vous voyez, de village. Oui. La très bonne viande, je n'en ai jamais mangé. Donc, bon, j'étais végétarienne. Et puis, petit à petit, là, récemment, je me suis mise au sport de façon un peu plus assidue, avec quelqu'un qui s'y connaît en sport, en nutrition. Et je suis allée vers le régime paléo, où donc je mange des œufs, un petit peu de poisson. Je ne mange toujours pas de viande, par contre. Normalement, il y a de la viande
oui,
dans le régime paléo.
Oui, mangeait du mammouth. Hein.
Et beaucoup de légumes, voilà, quelques fruits, des oléagineux. Un régime qui ressemble aux chasseurs-cueilleurs. Bon, on est quand même très loin de ça aujourd'hui.
Oui.
Donc, on essaye de manger local, de saison, biologique. Et en tout cas, un régime où moi, j'ai trouvé une clé de santé. Aujourd'hui, l'alimentation, chacun doit faire son expérience. Hein, donc, je ne prends aucun régime parce que chacun a son cheminement à faire avec ça.
Alors, ouais. Muriel, il nous reste peu de temps, mais je me dis, finalement, tout cela vous fait du bien.
En fait, oui. Là, je me régale parce que finalement, écrire ce livre me fait du bien. Je l'ai écrit parce que Maurice Daubard m'a fait témoigner quand je faisais mes stages là, de yoga. Encore cette semaine, j'ai donné une conférence sur mon vécu parce qu'il a travaillé avec des aveugles. Et il a vu que si on ne les stimulait pas, eh ben souvent ils étaient assimilés à une catégorie de gens où on se disait ils ne pourront rien faire de leur vie.
Oui.
Et il a vécu ça dans les années 70, c'était d'autres années. Et voilà, je suis l'exemple vivant que ça n'a rien à voir. Il faut stimuler au contraire tout ce qu'on peut faire.
Oui, et donc, puis vous dites à un moment donné se libérer de cette épée de Damoclès. Hein.
Complètement.
Oui.
C'est-à-dire en osant aller dans la peur de perdre la vue, ben, à un moment donné on s'en libère parce qu'on libère les émotions qui sont associées à ça. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Au cœur de la souffrance, il y a l'enseignement. C'est vraiment ce que j'ai découvert dans ce cheminement. C'est ce que j'aime à partager. Et je partage parce que des gens à qui je donne des conférences m'ont dit « Tu devrais écrire un livre, ça peut aider beaucoup de monde. » Donc voilà.
Ce que je garde cette phrase « Nul n'est mieux qualifié que moi, soi-même pour savoir ce qui est bon pour soi. »
C'est ça. On découvre aussi sur ce cheminement une sorte de guérison et d'auto-guérison. On accepte à un moment donné que les choses ne sont pas juste médicales et qu'en soi, on a des ressources et des capacités qu'il faut réussir à contacter pour vivre pleinement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert.
Voilà. Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que vous n'étiez pas auto-centré, mais vous dites, ma plus grande peur, c'était de ne pas être aimé. Mais ça, vous avez éliminé cette peur-là. Je pense que vous êtes très entourée.
Oui, aujourd'hui, je suis très entourée. Et puis, le premier amour à trouver, c'est celui pour soi-même. Et ça,
voilà.
Je crois l'avoir contacté.
Alors, je vais dire à nos auditeurs que votre livre est traduit maintenant en braille.
Oui.
Donc, on le trouve où?
Il est en train d'être traduit par le CE, le Centre de Transcription Braille.
Oui.
Et ensuite, on le trouve dans les réseaux classiques.
À Rangueil, non, ce centre?
Oui, alors... moi, je ne connais pas trop, pour le coup, où est-ce qu'il est.
Il y a une bibliothèque Braille également.
Mais voilà,
hein,
il sera disponible en bibliothèque Braille.
D'accord.
Voilà, prochainement.
Voilà. Un grand merci, Muriel Joubert. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'ouvrage intitulé « Comment j'ai trouvé ma propre lumière, un autre regard » aux éditions Amalthée et écrit par Muriel Joubert. Au revoir.
Au revoir, Monique.